Bonjour, c'est Sacha Goldberger dans Pop Pop Pop. Pop Pop Pop, c'est parti. Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Ce n'est pas mon fort, comme dit Nelson, mais je me dois pourtant de vous parler de technique en ouverture de cette émission. Voilà, lundi, nous vous annoncions Gringe dans Popopop et finalement, vous avez eu droit à une rediffusion avec l'excellent Quentin Dupieux. Explication, l'émission avec Gringe était bien enregistrée puisque je devais me rendre aux funérailles de mon ami Filou. Filou qui, entre parenthèses, avait choisi l'incinération, choix logique, après avoir passé une vie à fumer des cigares cubains, lui qui avait le Cuba, et les célèbres infectados dont les éprouvantes volutes me manquent déjà. Enfin bon, l'émission était enregistrée, sauf que pas tant que ça, puisqu'elle ne fut notre surprise en découvrant qu'en raison d'un débrayage inopiné du percolateur à bénifutage externe du logiciel, les 13 premières minutes du programme manquaient à l'appel. D'où ce changement de programme de dernière minute. Mais comme à quelque chose malheur est bon, comme on dit, voilà qui nous donne l'occasion de croiser Gringe pour la deuxième fois en quelques jours, ce qui en dit long sur l'intérêt que nous portons à son premier et excellent album, Enfant Lune. Et comme la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit, 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 deux fois au même endroit.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
Bonjour Gringe.
Salut.
Bienvenue dans Pop Pop Pop. Vous n'avez pas comme une sensation de déjà-vu là?
Ouais, c'est une espèce de jour sans fin. Le jour de la marmotte, je suis Bill Murray.
Ouais, c'est flippant. Hein. Et ben c'est le même sentiment que d'aller à une interro en terminale quand on a eu le sujet avant. À mes côtés, celle qui signe le featuring de Pop 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 tous les jours, même quand ça ne marche pas. Même quand ça ne marche pas, Charline Roux.
Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine.
Charline.
Bonjour Gringe.
Au menu de Pop Pop Pop, donc un acteur, un rappeur, un casseur et un flotteur. Vous êtes lequel de ces adjectifs aujourd'hui, mon cher Gringe?
C'est marrant, j'ai comme une impression déjà vue. Alors qu'est-ce que je pourrais répondre que j'ai pas déjà dit?
Vous pouvez le redire parce qu'on l'a pas entendu.
Ouais, ben je pense que je suis plus flotteur que tout le reste. Ouais.
Plus flotteur.
Ouais, j'associe ça à quelque chose de léger. Un peu la tête dans les étoiles, voilà.
Je vous remercie d'être plus flotteur que casseur, parce que comme notre régie est elle-même déjà bien cassée,
ouais,
c'est pas la peine d'en rajouter.
Finir le boulot, c'est
vrai. Gringe, en réalité, ça vient de Gringo, un surnom que vous vous êtes fait tatouer sur l'omoplate, si mes attentes...
Oui, vos sources sont exactes.
Il n'y aura pas ce qu'à vérifier. Hein. Il ne s'est pas effacé depuis lundi?
Non, il est toujours là, malheureusement.
Il est toujours là. Bref, au menu...
Malheureusement
Ah oui, il est vilain, on dirait un espèce de tampon Mako... qu'on m'a poinçonné dans le dos. Ah bah j'avais 15 ans, 16 ans quand j'ai fait ça.
Ça donne envie de le voir.
Pas vraiment, mais c'est cool que je l'ai dans le dos du coup. Parce que je sais que je l'ai, mais je le vois pas.
Retrouvez la photo du tatouage de Gringe sur franceinter.fr.
Bref, au menu également de Pop Pop Pop, un des membres du collectif Courtragemé, collectif qui lance une école de cinéma gratuite. On va en parler tout à l'heure avec un de ses fondateurs, le réalisateur Ladj Lee. Mais avant ça, mon cher Gringe, ici il existe une question. Une question qui peut encore plus vous énervez que les gens qui vous appellent Grinch, en vous confondant avec le Grinch, ce petit croque-mitaine au poil vert hein, qui arbore un sourire élastique jusqu'aux oreilles, se nourrit de jus de laitue et qui a un cœur trop petit pour aimer qui que ce soit. Et cette question c'est... Vous nourrissez-vous de jus de laitue et avez-vous un cœur trop petit pour aimer qui que ce soit? Non, pardon, cette question c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture?
Ah, c'est vaste, hein, la pop culture. C'est une question très vaste. Mais je dirais parce que ça, c'est...
Non, alors vous savez quoi?
Oui.
Là, je vous interromps. Je vous interromps parce que pour être totalement honnête, j'ai déjà eu des réponses.
D'accord.
J'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, rigolotes, indéchiffrables. Et parmi mes préférées, il y a celle de lundi, de Gringe. Écoutez. Ah ben non, on l'a pas évidemment. Ouais, ça marche pas. Bon. C'est dans les 13 minutes manquantes. Bon, alors je vous la repose. Pour vous, le Gringe aujourd'hui, donc, c'est quoi la pop culture?
Eh ben, en hommage, je vous dirais, NPA, pour moi, c'est de la pop culture. Je me rappelle de l'émission, d'un truc qu'on regardait, c'était hyper générationnel et en plus ça touchait toutes les générations. Je me rappelle moi rentrer des cours au collège et manger machin et le soir on se posait c'était nos moments de famille quoi. Ouais, devant Nulle Part Ailleurs avec Philippe, avec José, avec toi et voilà, c'était des grands moments de télé et j'avais l'impression que c'était très populaire et ça se voulait pas populiste quoi, et zéro condescendance, c'était une liberté de ton qui était vraiment charmante quoi. J'en garde un super souvenir.
Et ben j'en suis très fier.
Vous êtes charmante, Antoine.
Oh, mais ça suffit, vous. Hein, oui. Philippe aurait été ravi d'entendre ça. C'est moi qui vous le dis. Bien. La pop culture, on va continuer d'en parler pendant toute cette pop-heure, juste après un morceau extrait de l'album posthume de Charles Bradley. Ça s'appelle Can't Fight the Feeling. Oh Fight the Feeling, je peux pas battre ce sentiment, cet extrait de Black Velvet, l'album posthume de Charles
Black
Bradley.
Velvet, donc.
Black Velvet,
velours noir quoi en fait.
Le velours noir, ouais. Ouais. C'est l'album posthume de Charles Bradley qui vient juste de sortir. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un mec qui a passé pas mal de temps à glander et boire des bières dans un canapé. S'agit-il d'Homer Simpson, de mon oncle Raoul, ou du colloque d'Orelsan, un poil branlos de la série Bloqué? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, un pop portrait, c'est votre portrait, mais...
À base de pop.
C'est signé Charlene.
Un invité dont on est aussi content qu'il soit comédien, parce qu'il a déjà entendu ce portrait lundi, donc on va voir comment il joue la surprise. Aujourd'hui, nous recevons un rappeur, acteur, compositeur, etc., qui malgré cette intense activité semble tout droit sorti des films de slackers, que pudiquement nous traduirons par films de mecs qui glandent, qui ont commencé à fleurir pour mon plus grand plaisir et le vôtre, j'espère, au milieu des années 90. Il y a chez Gringe et son camarade Orelsan, qui plus est quand ils sont posés sur canapé période bloquée, quelque chose des Jay and Silent Bob de Kevin Smith, En plus bavard, puisque notre invité, rappelons-le, a un flow remarquable et nerveux, contrairement aux deux héros précédemment cités qui en sont dépourvus de nerfs. Il a aussi un petit quelque chose des héros d'Edgar Wright, les Simon Pegg et Nick Frost de Shaun of the Dead, plus vraiment gamin, jamais complètement adulte, avec cette forme d'humour qui n'empêche ni la tendresse ni la gravité, comme vous l'avez prouvé au ciné dans Commencez Loin. Sur scène, il est explosif comme un autre master slacker, Jack Black, dans School of Rock, et pour en terminer avec toutes ses références ciné, il a aussi un petit truc des héros de Judd Apatow, modèle Seth Rogen, sans le rire chelou, une répartie insensée, y compris dans les moments tendus et les situations incongrues, voire périlleuses, des moments comme ceux traversés par notre invité Gringe, qui les raconte fort bien dans son premier album, Enfant Lune, album de slacker avec du cœur. Surprise maintenant, surprise. Faites la surprise.
Non, je suis presque ému aux larmes, ça me touche vraiment beaucoup.
C'est-à-dire que la deuxième fois, on comprend ce qu'elle dit.
Mais ouais. C'est ça.
Non, mais j'essaie d'articuler.
C'était trop intelligible. La première fois, j'avais pas toutes les infos qui me parvenaient. Maintenant, je peux les filtrer. Merci pour ce portrait.
Avec plaisir.
Très beau, Charlie.
Bravo. Vous écrivez très bien.
Ouais. Très non, vraiment.
Ouais, ouais.
Arrêtez.
Pense.
Mais non, écoutez,
prochain album.
Arrêtez, c'est gênant.
Je sais, mais c'est pour ça qu'on insiste.
Gringe. Je suis
gêné. Gringe, question cruciale. Quel est le plus confortable, le canapé de récup de l'appart de Bloquet dans lequel vous passiez votre temps à boire des bières et à fumer des pets avec Orelsan, ou bien le petit fauteuil de France Inter moelleux sur lequel vous sirotez actuellement un thé vert à moitié bio, je crois, et à moitié chaud d'ailleurs, qui vient du distributeur.
Non, c'est un accueil très chaleureux, mais à cet accueil chaleureux, je préfère celui que me réserve ce canapé-là. J'y ai passé tellement d'années, j'ai un canapé de récup qu'on a trouvé dans la rue,
ouais.
Et j'ai dû dormir 4 ans dessus.
Il est moulé à votre forme.
Un petit peu, ouais. C'est ça, il est moulé à ma forme.
Arrêtez. Je suis en train de penser aux gens qui prennent cette émission en cours. Voilà. Ne vous inquiétez pas, tout est normal, bienvenue.
Gringe,
j'ai pas su quoi répondre. Ça.
Restez assis là où vous êtes. C'est le moment de passer à votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Alors on va commencer par le livre. Et ce livre, c'est Les jours s'en vont comme des chevaux sauvages dans les collines. Non, ce n'est pas du Pancol. On est loin d'un titre qu'aurait pu donner Orelsan à un de ses morceaux. Bref, c'est un recueil de 90 poèmes publiés par Charles Bukowski en 69. Charline, c'est vous qui aviez offert à Charles Bukowski la bouteille de Chablis qu'il avait vidé cul sec sur le plateau d'Apostrophe en hurlant votre prénom, je me souviens, deux mots sur ces 90 poèmes.
C'est bien pour ça qu'il était fâché, parce que je l'avais sifflé avant. On avait beaucoup ri ce jour-là, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui,
évidemment. Plus ri qu'en lisant ce recueil sublime, mais habité par la défunte Jane Cooney Baker, la première compagne de Bukowski, qui avait inspiré le personnage joué par Faye Dunaway dans Barfly.
Auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, Gringe ?
Avec grand plaisir. Alors, de mémoire, vraiment de mémoire.
Par cœur ?
Alors, je vais prendre le petit texte que j'ai sous le nez. Ces choses auxquelles nous apportons notre soutien n'ont rien à voir avec nous. Et nous nous en occupons par ennui, par peur, par avidité, par manque d'intelligence. Notre halo de lumière et notre bougie sont minuscules. Si minuscules que nous ne le supportons pas. Nous nous débattons dans l'idée et perdons le centre, tout en cire mais sans la mèche. Et nous voyons des noms qui jadis signifièrent sagesse, comme des panneaux indicateurs dans des villes fantômes, et seules les tombes sont réelles.
Bien, alors d'abord, démonstration faite pour ceux de nos auditeurs qui seraient abonnés au journal Valeurs Actuelles. On peut être rappeur et amateur de poésie.
Modestement, oui.
Modestement.
Très modestement.
Qu'est-ce qui vous plaît tellement chez Bukowski ?
L'immédiateté de son écriture, les images qui me parviennent, la précision des images, quoi. Mm-hmm. Puis c'est virtuose, en fait. Il a une manière d'imbriquer les mots les uns avec les autres. J'ai des poèmes qui, je vous en parlais la dernière fois, mais il y a ce fameux cantique à une jeune passante.
Vous pouvez nous le répéter parce que ça n'a pas été enregistré.
Voilà, d'accord. Alors, il y a un poème en particulier que j'offrais, j'ai dû offrir à ma copine de l'époque. C'est une espèce d'ode.
Changer souvent de copine?
Ça, c'est pas tant que ça. Mm-hmm. On en parlera. J'ai pas une fréquence tant régulière que ça. Non, je suis resté 8 ans avec la même personne et c'est un poème que j'ai voulu lui.
D'accord, lui offrir. Pardon, je vous ai interrompu.
Non, je vous en prie. Okay. Et voilà, et c'est une ode à la femme libre, et j'ai trouvé ce poème magnifique, quoi.
Bien, continuons avec votre film culte, Gringe, et là vous faites un choix lynchien en choisissant Lost Highway, un film sorti en 97. Charline, Non, cette autoroute perdue, il n'est pas en Picardie, n'est-ce pas?
Non, parce que nous, on est plus Danny Boone, en réalité. David Lynch, en revanche, est plus Los Angeles. Et en ce qui concerne l'intrigue, merci du cadeau, Gringe. Autant vous dire que bah, c'est quand même très compliqué de résumer ce film. Donc, on va tenter. Bill Pullman est saxophoniste. Maria Patricia Arquette, qu'il soupçonne de le tromper. Il se met à recevoir de mystérieuses vidéos de son appartement. Puis une dernière, le montrant à côté du corps de sa femme assassinée. Et après, le film commence.
We've met before, haven't we?
I don't think so.
At your house, don't you remember?
No, I don't.
As a matter of fact, I'm there right now.
That's crazy, man.
Call me.
I like that.
I think there's no such thing as a bad coincidence.
Alors, pourquoi ce film policier en particulier, Gringe?
Pourquoi ce film? Parce que c'est un peu une de mes madeleines de Proust. C'est un des premiers films que ma mère m'a fait découvrir. J'étais jeune quand on est allé le voir au cinéma, quoi. Et parce que c'est resté. Je sais pas. J'en avais vu deux ou trois déjà, je pense. Et c'est tout un esthétisme. Là, c'est un Los Angeles hyper esthétisé. C'est Bill Pullman, le club de jazz, la musique. Qui va avec, puis l'histoire labyrinthesque et sa manière de voilà dont il aborde la notion du temps. Il y a des thèmes qui me sont chers en fait, la schizophrénie du héros. Voilà, pour tout ça quoi.
Vous aviez quel âge quand vous l'avez vu?
Je sais pas, j'ai 15 ans, 14 ans.
Vous aviez déjà une petite copine?
Il ne me semble pas.
Vous alliez encore au cinéma avec votre mère.
Pur et innocent. Ouais, je sortais.
C'est vrai que l'arrivée des filles est tout de suite un truc qui rend moins pur et innocent.
Bah surtout après David Lynch.
J'ai pas dit ça. J'ai absolument.
Moi non plus. Vous avez vu comme un esprit mal tourné, c'est dingue, hein. Bien. Vous auriez pu choisir, non mais à propos de maman, je suis désolé, vous auriez pu choisir Maman, j'ai raté l'avion.
Oui, c'est vrai, j'aurais pu, ouais.
Parce que c'est dans
un objet de pop culture.
C'est dans ce film que vous aviez trouvé le nom des casseurs-flotteurs, le nom des deux cambrioleurs, Harry. Et Marvin, on est d'accord?
Mais je comprends qu'on puisse être plus Patricia Arquette que Macaulay Culkin, non?
Et quoi qu'il est mignon.
Bien, Gringe, pour la série, vous faites un choix. Oui, un choix joyeux, car vous choisissez la société de pompes funèbres de la famille Fisher avec Six Feet Under, une série créée par Alan Ball en 2001. Charline, Six Pieds Sous Terre, bah voilà un titre qui ne m'a amusé que très modérément lundi dernier. Aidez-moi à retrouver le sourire, s'il vous plaît.
Ou pas, parce que même si cette série parle beaucoup de famille, sachez qu'au cours des 5 saisons, 13 personnages sont morts de causes naturelles, 10 d'accidents de voiture, 11 ont été assassinés, 8 se sont suicidés, 9 sont morts d'une blessure à la tête, 5 de longues maladies et 22 d'autres complications. Vous sentez bien ou pas?
Beaucoup mieux. Si je comprends bien, Gringe, vous êtes donc plutôt d'une nature joyeuse.
Très, 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 très enjouée. Voilà, c'est le genre de série que je m'injecte au quotidien pour aller bien, pour garder ma bonne humeur. Six Feet Under, c'est la première série que j'ai dû regarder d'une traite, que j'ai avalée d'une traite. D'ailleurs, c'est la première fois que je découvre une série. Qui est un objet de cinéma, quoi. Et j'adorais la manière dont ils ouvraient chaque épisode par chaque fois une mort différente, absurde. Et je trouvais ça très bien vu. Et voilà, c'est un truc qui interroge notre rapport à la mort et les liens entre des gens d'une même famille face à la mort. Je trouvais ça toujours très bien senti, très juste, des comédiens super, quoi. Et voilà, pour toutes ces raisons-là, quoi.
Et vous en avez parlé à l'époque avec votre copine?
Je la regardais avec ma copine, d'ailleurs c'est elle qui m'y a amené. Ma copine de l'époque.
Votre mère ne voulait pas regarder Six Feet Under.
Si, tu vois, par répercussion, par ricochet. Moi, j'ai amené ma mère à regarder Six Feet Under.
Ah bah vous voyez,
voilà, il y a eu un vrai effet ricochet.
Et pourquoi Six Feet Under plutôt que
Bloqué.
Par exemple, et d'ailleurs, c'est insupportable à quel niveau d'entendre Bloqué. Dès que quelqu'un vous voit en train de chercher vos clés, votre passe Navigo, le digicode de votre immeuble.
C'est marrant quoi, mais ça m'arrive pas tant que ça, hein. On m'appelle plus souvent Gringe qu'on me dit bloqué. Voilà, entre les deux, mon cœur balance en vérité, et je pense à m'exiler bientôt.
Très bien, terminons cette pop-list avec la chanson Gringe, et cette chanson c'est celle-ci.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo.
Una palabra del artista cubano Carlos Valera y que es una canción del álbum Nubes.
Sí.
¿Por qué esta canción, Gringe?
Yo no sé, me quiero mucho esta canción. Je vais m'arrêter là pour l'espagnol. Je suis allé au maximum de ce que je pouvais faire.
Ça veut dire que vous ne comprenez pas les paroles?
Absolument pas. Par contre, je suis allé sur Google Trad. Et donc, je les ai traduites, j'ai eu la traduction et je trouve ça magnifique. C'est une chanson d'amour, une chanson d'amour déchue. Et voilà, il fait un parallèle entre son histoire et les quatre éléments.
C'est un garçon déchu par l'amour?
C'est un garçon déchu par l'amour, oui. Et à l'époque où j'ai découvert cette chanson, j'étais en couple.
Avec votre copine?
Voilà.
Ok. Vous anticipez mes questions aussi, je crois. Pas.
Ça se passe bien, vous serez pyjama ou pas?
Je résume. Lost Highway, Six Feet Under, Bukowski et Carlos Valera. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Una palabra.
We've met before, haven't we?
I don't think so.
Dice nada.
At your house, don't you remember?
No, I don't.
Et nous voyons des noms qui jadis signifièrent sagesse, ces choses auxquelles nous apportons tout notre soutien. Comme des panneaux indicateurs dans des villes fantômes, et seules les tombes sont réelles.
Voilà ce qui se passe dans la tête de Gringe en ce moment.
Voilà, un joli smoothie de digeste. Ouais, un fragment de ce qui se passe.
Bien, la bande-son qui va trotter dans la nôtre de tête dans les prochaines minutes est issue de votre premier album solo qui s'appelle Enfant Lune et le morceau qu'on écoute tout de suite c'est Qui dit mieux en featuring avec Orelsan et Vald.
Poto, il était temps, depuis le temps que j'ai les pieds dedans. Dans la bouche, un arrière-goût d'essence, comme si le rap me disait que tout était censé. Mais je vais prendre la poudre des scampettes, j'avance comme cavalier sans tête. Je cherche à me faire habiller sans fait. Vous feriez pareil si vous saviez chanter. Patate, patate, white widow. Je jette son Mac par la window. T'attrapes sa chatte par Wigo. Tu dragues madame par icône. Les gars, je reste pas parmi vous. Dites peur que je suis pas parti tout seul. Parce que comme vous, je suis fou. Et comme fou, je suis vous. Le diable va tabrer, barbre, barbre, tabre. Genre ma tête, j'ai pas combien, j'ai tendance à bloquer par l'ombre. Disons que dans tous les cas, je vais cartonner. Je remplis les mesures de feuilles blanches. Pour moi, tous ces mecs ont des gueules d'ange. Plusieurs vies, une seule danse. Plus une table pour les écarteler.
T'as pétasse à sa robe de mariée sur son profil Tinder. T'as cramé l'argent du rap, tu mets ton réveil à 8h. Les belles histoires commencent rarement par demande un chromo dealer. Je mise un poids multicolore, j'ai le flow d'un tapis twister. Monde de suiveurs, sur la liqueur, mais la petite sœur à Piawar, j'arrive à leur enculer. Pourquoi tu poses une photo pas nue quand tu froid? Smiley, 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 smiley sur le troisième doigt. Je les aide à percer, en fait je les aide à prendre la grosse tête. Je préfère celui qui flex à celui qui fait semblant d'être modeste. Être honnête, j'aime les problèmes, je suis parano, je suis connu, cache la cam avec une gommette.
Qui dit mieux? Qui dit mieux? Ferme-la pour toujours, dis-moi qui dit le whisky beurre, whisky beurre, whisky beurre. J'ai passé l'adolescence dans un mélange whisky beurre. Finis-le, 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 finis-le. Ta tête est sur le sol et t'entends crier finis-le. 8001, 10001, mon patron m'a déchu sur contre-verre à dissipe.
Ça perd les prophètes, parle pas des ex, parle pas des prophètes. Ça parle chinois, au mieux ça sait faire des fautes d'orthographe. J'suis dans des beaux draps, j'voulais sauver le monde et puis j'étais clair. Mes yeux sont fermés comme si j'avais tout vu. J'pense comme un documentaire sur YouTube. Avec la musique de Requiem for a Dream. La guerre est voulue, la bouche est cousue, la couche est moulue. Ça noircit les poumons, ça jaunit les moulures. J'suis seul au monde, il me faut de la monnaie. Plus que ça l'homo, j'fais pas l'aumône. J'essaie d'être honnête, c'est ça le plus dur. J'écris des poèmes, j'ai même pas de culture. J'crois qu'ils ont raison, le temps n'existe pas. Enfant soldat n'a pas vraiment de futur. C'est froid et lugubre dans les environs et le pipeau est joli. Chacun sa diction, deux cœurs dans les yeux juste avant l'aubergine. Ça fait plus mignon, je vais faire des millions et puis des milliards. Racheter le pouvoir, risquer les impôts. Comme les souvenirs de moi quand j'étais marmot. Quand j'avais pas de buzz, quand j'étais pas beau.
Entre nuit fauve et noce rebelle, ça y est, j'ai plus le temps d'une querelle. Elle finira grosse en attendant que je tombe amoureux d'elle. Beaucoup plus de baisses, de ruptures qu'on a consommées de nuit de noces. Enfoiré, c'est nous les enfants du divorce.
Ouais. Évite rayon du soleil comme chauve-souris, tête à l'envers, rien n'a changé. Les gars, qu'est-ce qu'on glande aujourd'hui? Sûr qu'on va se détruire comme la dernière fois. Mais le problème, je me rappelle pas la dernière fois qu'on a fait un truc pour la première fois. Esprit éclairé mais une mode de vie sombre. C'est le premier album et j'arrive on flic. Missile dans vos mères, j'ai tous vos Kim Jong. Et passe-moi la liqueur, c'est de la Volvic. Tu demandes pourquoi l'attente était si longue. C'est que je pars en couille chaque fois que la nuit tombe. Mais si tu me follow, je peux viser juste pour te foutre en l'air comme au beer pong.
Qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux. Par où ferme la porte aujourd'hui, moi qui dit mieux. Whisky beuh, whisky beuh, whisky beuh. J'ai passé l'adolescence dans un mélange whisky beuh. Finis-le. T'es sur le sol et t'entends crier finis-le. 8001, 10001, 10001. Mon patron m'a dit j'suis sur contre-verre à dissipe.
Qui dit mieux, featuring Orelsan et Vald dans Pop 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 sur France Inter, cet extrait de Enfant Lune, le premier album solo de Gringe, notre invité aujourd'hui. Gringe, nous l'avons dit, vous êtes un artiste multicasquette, c'est drôle d'ailleurs pour un rappeur casquette, vanne de vieux. Bref, vous êtes un artiste pluridisciplinaire, vous semblez aussi à l'aise avec les mots qu'avec le jeu. Quel rapport pour vous entre les deux, sauf évidemment les jeux de mots?
Quel rapport entre les deux? Pour moi, il y en a peu. Pour moi, il y en a peu. C'est marrant. C'est mon rapport à la musique, c'est vachement mental. C'est un rapport très très vis-à-vis de moi et beaucoup plus pénible que la comédie. Mm-hmm. C'est beaucoup plus pénible moi de me replonger dans des états pour transcrire des émotions, me remettre dans des états qui vont me permettre d'écrire ou de chanter. À la différence que la comédie, c'est une musique collective et que ça me sort un peu de moi-même, quoi. Mm-hmm. Et voilà, donc, peu de rapport l'un avec l'autre pour moi.
Qui est cet enfant lune qui donne son titre à l'album?
Je pense qu'il est multiple et qu'il est un petit peu en chacun de nous. Moi, je l'exprime de manière... Enfin, en tout cas, le mien me permet d'exorciser certaines choses. C'est la petite voix que j'entends, c'est mon côté intuitif, c'est le gamin qui dit adieu, qui essaye de dire adieu à ses vieux fantômes. Voilà. Grosso merdo.
Nous sommes sur France Inter, j'ai une question à la Laura Adler. Cet enfant de lune, c'est vous?
Eh ben, tu vois, c'est les questions les plus simples.
Ben oui, toujours.
Qui sont les plus compliquées.
Je sais.
Je sais pas quoi te répondre, Antoine Adler. Je
ça vous va pas mal. La toute première phrase de l'album, c'est, je cite, « Je crois que je suis l'incarnation même du mot galérer », fin de citation. L'album est maintenant sorti, fini la galère, au moins celle-là.
Au moins celle-là, non. Bah, j'ai toujours les mêmes tentations. Hein. Je suis très capable de me laisser choir, mais je suis vigilant. On va dire que ça me maintient. Ouais, je suis un peu plus vigilant grâce à tout ça, ouais, le cinéma et la musique.
Toujours dans cette intro intitulée Mémo, vous remerciez d'emblée ceux dont vous avez croisé la route et qui vous ont aidé, changé, fait devenir un casseur-flotteur. Ce merci franc, entre autres, à Orelsan, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est un moyen de s'affranchir d'entrée?
Ouais, bien sûr.
Sur le principe de Balneuve.
Ouais,
j'ai dit merci.
Ouais, ouais. Mais c'est une manière de transiter aussi d'un univers à travers duquel les gens m'ont découvert. Évidemment, Aurel m'a offert une exposition très très large. Et c'est une manière, ouais, de le remercier aussi. Les gens me demandent, mais est-ce que ça te dérange pas qu'il soit sur deux morceaux de l'album, qu'on l'entende sur l'intro? Je lui dis, fait partie de mon histoire, en fait, ce mec. C'est ma famille, quoi. C'est un membre, je le considère comme un membre de ma famille, et c'est normal que je lui rende hommage, et voilà.
Vous auriez pu tomber sur Anne Romanoff. J'ai écouté Enfant Lune.
Fait moins de rap, je crois.
J'ai aimé, ça viendra. Et j'aimerais mettre cet album tout entier dans la machine imposante qui est derrière moi, ma moulinette pop, pour connaître les mots qui reviennent le plus souvent. Essayons.
Je crois que je suis l'incarnation mille fois. Et le problème, je me rappelle pas la dernière fois.
Ah voilà, c'est prêt. Alors figurez-vous, mon cher Gringe, que les mots qui reviennent le plus sont déchiré.
Déchiré, 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 déchiré.
32 fois, hein. Et konnichiwa, bitches, 29 fois.
Konnichiwa, bitches. Konnichiwa, bitches. Konnichiwa, bitches.
Alors évidemment, la question, c'est qu'est-ce que ça raconte de vous? Et vous êtes bien entendu libre de répondre pas grand-chose.
Ouais, je pense que... Je pense que je vais pas épiloguer, je vais pas trop m'étendre. Et si vous prenez un refrain samplé, effectivement, effectivement.
Ça se répète.
Ouais, ça se répète un peu, ouais.
C'est un album surprenant dans le sens où c'est un album très introspectif, à la tonalité plutôt sombre, amour malheureux, cicatrice familiale. Quand vous avez commencé à le concevoir, est-ce que vous saviez que c'est ça que vous vouliez livrer de vous ?
Non. Au début, c'était très nébuleux. Je crois que les 4-5 premiers mois, je refaisais vachement de morceaux dans l'esprit casseur-flotteur. Puis j'avais quand même des thématiques que j'avais envie d'aborder, qui me sont très personnelles, mais qui m'étaient chères. Le temps que je trouve le moyen de le faire et que le fil rouge se dessine, voilà, j'ai mis 5-6 mois. Et puis après, c'est devenu une évidence qu'il fallait que j'aille au bout de cette démarche-là et que je me débarrasse totalement du côté casseur, quoi.
Alors, question Psychologie Magazine / parents. L'accouchement a été difficile ?
Ouais, j'ai fait un baby blues. J'ai une amie qui m'accompagne aujourd'hui qui m'a, c'est marrant parce que c'était vraiment, je l'avais sous le nez, hein. Les deux mois qui ont suivi le rendu de l'album, je suis tombé assez bas, j'ai eu une espèce de coup de blues terrible et je comprenais pas pourquoi. Mais tu fais un baby blues, quoi. L'accouchement a duré plus d'une pige et demie. Voilà, celui-là s'est fait sans péridurale. Mais maintenant, c'est très libérateur.
Maintenant qu'il est né pour de bon, ça va mieux.
Ah ouais, là, ça y est, je souffle.
Enfant Lune, c'est un album qui a mis du temps à sortir. Vous venez de le dire, la date a été maintes et maintes fois repoussée, car c'est un album artisanal. Dites-vous, alors moi, je m'y connais en artisanat de la pop culture. Hein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs les plus novices l'usage des meuleuses, les binettes et autres fers à souder qui ont été nécessaires à la création de cet album ?
Et moi, c'est plutôt les artisans, tu vois. Des techniciens, les spécialistes. Moi, je pose juste ma voix. Je suis juste un artisan de l'écriture, modestement.
Mais artisanat, ça veut dire que vous avez remis 100 fois sur le.
Ouais, c'est-à-dire que on a déconstruit plein de choses et que. Pour parler de manière plus musicale, par exemple, je bossais au début sur des instrus, des choses très synthétiques, et que j'ai fait des rencontres. J'ai rencontré une musicienne, une mélodiste qui est venue, qui a ajouté des instruments sur les sons, qui a rendu la chose plus organique. Quand je dis artisan, c'est être aussi au four et au moulin, tu vois, à tous les endroits de la construction, toutes les étapes du processus de création. Là où, avec Casseur, je me laissais vraiment faire, quoi. Ouais, j'écrivais, je chantais et je me laissais porter par...
Laissiez flotter.
Ouais, moi aussi.
Donc, affranchi sur cet album, mais bien entouré, hein, Léa Castel, Pone, Valds, Kred, Némir et un mec nommé Aurel San.
Et un gars qui s'appelle Suicon Blasadé aussi,
qui est aussi sur le.
Un très bon rappeur, voilà.
Qui est sur le titre avec Valds.
Ouais, sur qui dit mieux.
Qu'est-ce que ces collaborations vous ont apporté et comment est-ce que vous avez fait votre casting ?
Famille d'abord. Aurel et Claude sont des amis très proches. Et je voulais qu'ils fassent partie de cette aventure-là. J'ai rencontré Léa Castel chemin faisant. Et justement, on parlait du côté artisanal et des constructions des morceaux. C'est elle qui m'a apporté la touche très musicale. Elle m'a coaché vocalement. C'est une grande mélodiste, une grande voix, la chanson française. Qui a une espèce de traversée du désert pendant 10 ans, mais qui prépare un album. Et donc c'était échange de bons procédés. J'écris un peu pour elle, et elle me connecte avec des producteurs intéressants, et elle fait un peu de direction artistique sur l'album, beaucoup plus expérimentée que moi, et voilà. Pone, parce que c'est mon pote aussi, je parlais de la famille, mais Pone c'est pareil, c'est comme Aurel et Claude, et Pone m'accompagnera sur scène, je pense, très vraisemblablement. Et Némir, parce que je amoureux de la voix de ce mec et de sa sensibilité musicale et que je l'entendais sur le morceau dont il est question, quoi.
Bien, alors Gringe, on a parlé de musique avec cet album, mais avant de recevoir Ledge Lee de Courtrage-Mé, parlons un peu de cinéma. Je rappelle que vous dites « Le cinéma et la musique m'aident à mieux vivre avec moi-même, c'est autant d'expériences qui me renseignent sur mon rapport à l'autre et au monde ». Ça reste d'actualité, ça ?
C'est profond, mais il est tôt encore hein, pour 16 heures. Ouais, ça reste d'actualité, bien sûr. Je pense que dans tout ce que je pars du principe que tout ce que je...
Comment est-ce que les deux se complètent ?
Je pense que dans la musique, c'est vraiment quelque chose qui doit pousser, en tout cas un exercice, l'exercice d'un album solo doit pousser à l'introspection fatalement, tu vois, et à l'analyse et à l'autocritique et au fait de devoir se sonder soi. Donc c'est quand même quelque chose une démarche très personnelle, dans tous les sens du terme. Là où la musique, là où le cinéma, pardon.
C'est une démarche collective.
Ouais, et il y a toujours un truc, tu sais, où tout est exacerbé dans la rencontre. C'est un mois et demi de tournage, donc c'est énormément d'infos qui m'arrivent que j'essaie de digérer en temps réel. Et bien sûr que ça me renseigne, je sais pas,
le fait de participer. Les Chatouilles sort le 14 novembre, ouais. Là, dans pas longtemps. J'ai joué dans ce film d'Andrea Bescon et Éric Métayer. Et quand je vois la portée.
Qui n'est pas une comédie, hein.
C'est pas du tout une comédie, mais avec des moments quand même très, beaucoup plus légers. Mm-hmm. Mais quand je vois la portée du message, la manière dont ça peut impacter, dont l'art peut transcender choses un peu dark. Évidemment, ouais, c'est tout un tas de choses comme ça qui renseignent l'autre et qui nous renseignent nous. Sur notre condition, notre condition d'homme, quoi.
Le registre de la comédie, c'est un registre auquel vous avez envie de revenir au cinéma? Ou d'aller? Parce que je ne sais pas si du coup
c'est
vous considérez
le...
que...
Ouais, c'est pas le cinéma. Moi, c'est pas le cinéma qui m'attire de manière instinctive, naturelle. Mais il y a des choses, ouais, il y a des choses très pertinentes. Et j'ai pas d'exemple en tête là tout de suite.
Vous avez déjà le rythme? De par votre pratique de la musique, en fait.
Ça m'aide. Donc, ça m'aide. C'est vrai. Ça m'aide pas mal. Pareil, occupation de l'espace, le fait d'être un peu familier avec les caméras, les trucs comme ça. C'est vrai qu'au cinéma, ça aide tout de suite à trouver mes marques sur un plateau de tournage.
On reparlera de cinéma avec vous à l'occasion de la sortie d'un de ces prochains films. Restons-en aujourd'hui. À la musique, on l'a compris, vous savez faire beaucoup de choses, Gringe. Est-ce que vous savez faire ça?
Mais moins bien que vous, je crois. Il y a moyen que je m'arrache la joue.
Ah, pas mal.
Plus dans les aigus.
Plus dans les aigus.
Ouais, quelque chose de plus équilibré.
Ouais, vous avez une voix plus aiguë que la mienne. C'est normal.
Oui, c'est vrai.
Ah, ouais. C'est vrai. Hein? Bah, de toute façon, c'était juste pour lancer les pop news.
Et on sait qu'il y aura la lourde tâche de succéder à Valérie Lemercier, Alain Chabat, Antoine Decaune, Gad Elmaleh, Florence Foresti, Antoine Decaune, Édouard Baird, Manu Payet, Antoine Decaune, Jérôme Commandeur, Antoine Decaune, le maître de cérémonie de la 44e cérémonie des Césars, ce sera lui.
À l'école, il n'avait que 5 sur 20 de moyenne en géographie, c'est Jean-Michel nul en géo.
Tour de piste de Montréal, les pyramides de Guadalcanal. Muraille de Chine, de Syracuse.
La compilation des chanteurs inconnus.
Cadmerade donc pour les Césars et la cérémonie, ce sera le 22 février sur Canal+.
Et c'est une excellente nouvelle. J'aime les BD, j'ai toujours aimé les BD, et même si je trouve qu'il y a un peu trop de BD dans ce milieu, je suis BD friendly. Si comme moi vous aimez les BD, devenez juré de prix BD Fnac France Inter jusqu'au 13 novembre. Vous aurez la possibilité de déposer votre candidature pour devenir membre du jury. 30 candidats seront retenus et auront pour mission de lire, évaluer, noter l'ensemble de la sélection des libraires Fnac afin de choisir les 5 albums finalistes parmi les 20 déjà présélectionnés. Une commission finale sera organisée et sera présidée par Bibi, c'est moi, et composée de journalistes spécialisés et de libraires Fnac. Pour postuler, www.prixbdfnacfranceinter.com.
Alors qu'ils poursuivent leur tournée d'annif de 30 ans, les Smashing Pumpkins quasi d'origine, soit Billy Corgan, Jimmy Chamberlin et James Iha, viennent de dévoiler un nouveau titre, Knights of Malta. Un titre des Smashing Pumpkins à retrouver sur Shiny and Oh So Bright, volume 1, LP No Past, No Future, No Sun, qui sortira le 16 novembre.
France Inter. On peut pas ? Antoine Decaune.
Oui, c'est moi. C'est marrant aussi, ça.
Moi ? C'est plus flippant, en fait.
Merci, Charline. Avant d'accueillir Ledgely, le réalisateur et membre du collectif Courtrage, mais on écoute justement une chanson des membres de ce collectif, et cette chanson, c'est Thé à la menthe, signée La Caution.
Souvenir d'une madame Nicole, un stit qui pensait qu'un bounoule n'était pas fait pour l'école. Je portais un velours troué, des bottes rouges en plastique, une cagoule en laine, un chandail ou des plaies basket. Le coiffeur on ne savait même pas encore que j'existais. Mais sois sûr que le premier qui nous a vu s'est désisté. Pourtant jeune et innocent, la mort volait sans clinette. On squatte le bac à sable avec son sable et nos idées afin de faire du vandalisme, même sans le savoir. Nos parents n'ont pas, donc on erre sans avoir. D'après nos voisins, de gros racistes, je le précise, nous étions mal élevés, leur berger allemand mieux dressé. Moi j'y crois pas, d'ailleurs j'ai jamais jamais cru. Car parentale est le seul amour que j'ai jamais eu. Donc pour pas se vénère, ce qui met à l'amende les vertus du nerne, donc du thé à la menthe.
La caution, thé à la menthe, c'est un morceau à retrouver sur la BO du film Ocean 12. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Gringe, et vient de nous rejoindre un des membres fondateurs de Courtrajmé, Ladjli. Bonjour Ladjli.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission Courtrajmé, enfin court-métrage à l'envers pour nos amis qui nous écoutent dans les iPad. C'est un collectif que vous avez fondé en 1995 avec Romain Gabras et Kim Chapiron. L'idée à la base c'était de faire, je vous cite, les films que vous vouliez faire et comme vous vouliez les faire. Aujourd'hui vous lancez une école de cinéma gratuite. Avec la même méthode, c'est-à-dire que c'est l'école que vous vouliez faire comme vous vouliez la faire?
Exactement, c'est l'école Courtrajmé.
Pourquoi vous ne trouvez pas votre bonheur dans les écoles de cinéma tradis?
Ben, moi, pour ma part, j'ai pas fait d'école de cinéma et c'est le cas de tous les membres du collectif. Personne n'a fait d'école de cinéma. Mm-hmm. Donc, on s'est dit qu'on allait lancer notre propre école parce qu'on sait aujourd'hui, c'est pas évident d'accéder à ces écoles-là. La sélection est très drastique et le prix est très élevé. Donc, tout le monde n'a pas la chance d'accéder à ces écoles. D'où l'idée de lancer cette école gratuite, ouverte à tous.
Pour laquelle il ne sera pas nécessaire d'hypothéquer un rein ou un autre.
Exactement. Voilà. Là, c'est gratuit. Là, tout le monde peut postuler. Voilà.
Pensez à Richard Berry. Ladjli, en 2005, vous avez réalisé un documentaire sur les cités, notamment celle de Montfermeil après les émeutes. 10 ans après, ce doc deviendra une fiction qui s'appelle Les Misérables, fiction qui vous vaudra une nomination au César. Pour vous, la caméra est une arme. Comment apprend-on à un jeune de 18 ans à se servir de cette arme?
Bah, un peu comme nous, on est vraiment parti de rien. Comme je disais, on n'a pas fait d'école, on avait cette envie de faire des films. On a créé ce collectif en 96, tout de suite après le film La Haine, parce que c'est un film qui nous a tous marqué, de Mathieu Kassovitz.
Film fondateur.
Donc après ça, on s'est dit, allez, on va acheter nos propres caméras. Et 96, c'était le tout début du numérique. Donc avec très peu d'argent, on pouvait acheter une caméra. Et donc de là, on a acheté une caméra et on a commencé à filmer tout ce qui se passait autour de nous. Mmh. Et le truc, c'est qu'on avait surtout une envie. On était une bande de potes, on se connaît tous depuis la primaire, et voire la maternelle. Et donc on avait tous cette envie de faire nos propres films. Donc de là, on s'est procuré des petites caméras et on a commencé à filmer tout ce qui se passait autour de nous. Mmh.
Filmer ce qui se passait autour de vous, dans les cités, parce que vous pensiez, en dehors de La Haine, que les films ne reflétaient pas la réalité aussi.
Oui, totalement, bien sûr. La Haine, 20 ans après, moi, concrètement, j'ai pas revu un film qui traite correctement de la banlieue. Donc voilà, l'idée, c'est donner aussi la chance aux gens issus des quartiers et leur donner la possibilité d'écrire leurs histoires et de raconter leurs histoires, c'est important.
Parce que là, vous entendez aider les jeunes gens qui vont postuler non seulement à la technique, mais j'imagine aussi à concevoir les histoires. Est-ce que vous attendez d'eux que ce soit des films avec de l'engagement où tout sujet est bon à amener?
Ah non, tout est bon à amener. Là, on a ouvert la candidature, ça fait 3 semaines. La première session d'écriture, il y a 10 places. Nous, on s'attendait à avoir 100, 200 personnes. On s'est retrouvé avec plus de 1000 candidatures. Mmh. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande. Donc, l'idée, c'est ça. C'est vraiment de les former, de prendre des débutants qui n'ont pas fait d'école de cinéma. Parce que les critères de sélection, c'est de ne pas avoir fait d'école de cinéma. Ouais. Et de ne pas avoir forcément un niveau d'études. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Et donc, nous, on part du principe qu'en 3 mois, on peut former un débutant à écrire un scénario de court-métrage. Et par la suite, le réaliser, le post-produire. Et nous, l'idée, c'est vraiment de les former et par la suite, de les produire aussi, parce que c'est important. C'est important aujourd'hui.
Ça peut vous intéresser, Gringe? Vous n'avez fait aucune école de cinéma?
Non, mais je trouve ça...
aucun niveau d'études.
J'ai un tout petit niveau d'études, ouais. Mais j'ai pas fait d'école de cinéma. C'est l'école de la vie, mais je trouve ça hyper important. C'est le talent, il est partout, c'est clair, et que c'est vachement élitiste en fait. Moi, je pense à des écoles comme la FEMIS machin, j'en ai entendu parler de loin, c'est impossible d'y rentrer. C'est important qu'il y ait des guides comme ça, et c'est partout dans la musique en fait. Il y a voilà, nous dans le rap, il y a des, dans les années 80-90, t'as des mecs qui ont pété et aujourd'hui qui sont plus trop en maison de disques, quoi, qui auraient pu s'installer, devenir DA machin et aller. Aujourd'hui, il y a des mecs comme Fianso qui initient plein de trucs et c'est important en fait qu'il y ait une qui est des mecs qui ont un orteil dedans ou un pied dedans et qui pérennisent le truc et qui aillent chercher le talent là où il est aussi. Quoi.
Et qui redistribuent.
Ouais, en 2018, Lajli, vous êtes à nouveau nommé au César pour le doc à voix haute, doc dans lequel vous suivez des étudiants participant à un concours d'éloquence pour devenir le meilleur orateur du 93. L'idée à travers cette école, c'est de devenir le meilleur cinéaste de France.
Bien sûr, nous l'idée, on pense qu'il y a un talent qui est juste incroyable en banlieue et qui n'est pas exploité aujourd'hui. Moi, je prends un exemple, c'est mon petit frère qui s'appelle Ousmane. On l'a formé en l'espace d'une année. Aujourd'hui, il fait tous les clips de tous les rappeurs, que ce soit Niska, que ce soit là. En ce moment, il tourne le clip d'Orelsan. Et avec un peu de moyens et de la volonté, on est capable de former des jeunes. Et on y croit et on espère sortir des pépites des réalisateurs, d'auteurs dans cette école.
Et peut-être éventuellement dégager certains qui sont souvent au box-office et dont vous n'aimez pas les films, éventuellement?
Oui, aussi, parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui, le cinéma français, c'est un milieu qui est très fermé, et c'est pas évident d'accéder si on n'est pas vraiment dans le réseau. On se rend compte que c'est souvent les mêmes personnes qui font les films, qui jouent dans les films, qui écrivent les films, qui réalisent les films. Et à un moment donné, on se dit, laissez-nous un peu de place, quoi. Nous, si on a des histoires à raconter, c'est important de le faire.
Et alors, pourquoi ne pas faire un doc sur cette école, hein, hashtag Inception?
C'est prévu. Là, on lance la première session là cette année, mais l'année prochaine, sachant qu'on va proposer des formations de 9 mois, des formations continues. Donc l'idée aussi, c'est de faire un film comme on a pu le faire avec le documentaire à voix haute. Mm-hmm. Là, cette année, c'était un peu juste, sachant que c'est une première et que tout s'est débloqué un peu dans le dernier moment, parce que c'est pas évident. Moi, c'est un projet que j'ai en tête depuis plus de 10 ans. J'ai essayé de le monter il y a 10 ans sur la ville de Montfermeil. Ça s'est pas super bien passé. Donc là, j'ai eu l'opportunité de le faire. Je me lance, mais voilà, je prends le temps et je vais pas me... On va prendre le temps de le faire bien.
Dans le collectif Courtrage-Mai, personne n'a fait d'école de cinéma. Alors, question à la Laurent Delahousse, hein, avec la branche de lunettes dans la bouche. Cette école de cinéma, n'est-ce pas une formidable revanche sur la vie?
Oui, quelque part, oui, bien sûr. Hein. Comme je dis, nous, on est vraiment parti de rien avec ce collectif, hein, juste avec une envie et une détermination à faire des films. Et à 20 ans, aujourd'hui, plusieurs membres de ce collectif, aujourd'hui, on fait leur plaque, que ce soit Romain Gavras qui réalise ses longs métrages, qui fait des clips incroyables, Kim Chapiron qui a fait plusieurs longs métrages. Je peux en citer d'autres. Il y a La Caution qui est là, Oxmo Puccino, Mouloud Achour qui vient de monter sa propre télé. Donc chacun a pris une voie différente, mais chacun a su, a réussi à s'en sortir dans sa voie.
Mais il vous reste quelques postes à pourvoir du coup dans la bande, non? Vous n'avez pas encore tous les...
Ah non, il y a encore du monde, hein, le collectif. Faut pas oublier qu'à la base, on était 134, ouais, donc il y a encore du monde derrière.
À la création de Courtrage-Mai en 95, vous ne vouliez pas ressembler à ces, je vous cite, un frustré de la pellicule. 20 ans plus tard, vous en pensez quoi du cinéma français? D'ailleurs, c'est une question que je vous pose à vous deux.
Bah, comme je le dis, enfin, en tout cas, à mon point de vue, c'est que ça a pas vraiment changé, quoi. C'est toujours, comme je le disais, c'est toujours les mêmes films, j'ai l'impression, et ça se répète. Donc, c'est pour ça qu'on a envie de donner la chance à cette nouvelle génération qui, je pense, ont plein d'histoires à raconter.
Mais vous parlez du cinéma français ou bien de la représentation des banlieues dans le cinéma français?
Les deux, je parle des deux. Aussi la représentation, souvent, c'est vrai que des banlieusards, on n'en voit pas souvent dans le cinéma, même si c'est vrai que ces dernières années, ça commence un peu à se débloquer, mais il y a encore pas mal de chemin à faire.
Ouais, nous, on avait la même, on se faisait la même réflexion avec Aurel quand, après que notre film soit sorti. On s'était rendu compte que malgré nous, on avait mis en lumière une jeunesse qu'on voit peu au cinéma, là. Tu vois, la jeunesse, les gens de province, la jeunesse provinciale qui se fait yesh.
Bien sûr, totalement.
Et c'est vrai que c'est des catégories de gens qu'on voit plus au cinéma, quoi.
Ben, ceci étant, si je peux apporter une toute petite nuance, il y a quand même comédie sociale qui fonctionne bien aujourd'hui en France. Des films comme Le Grand Bain ou comme En Liberté de Salvadori qui marchent bien et qui sont des films assez remarquables. C'est plutôt une bonne nouvelle, j'imagine.
Non, mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit depuis ces dernières années, ça commence un peu à s'ouvrir, mais il y a encore beaucoup de chemin.
Et c'est des familles de cinéma qu'on trouve souvent à l'écran, quoi. Souvent les mêmes familles de cinéma, quoi.
Pour cette première formation qui s'ouvre ce mois-ci au sein des ateliers Médicis, vous avez retenu 10 candidats pour les faire participer à une formation de 9 mois en 3 modules, hein, écriture, réalisation, post-production. Quels étaient les critères de sélection?
Alors, les critères de sélection, c'est de ne pas avoir fait d'école de cinéma et de ne pas avoir un niveau d'études. Même si on n'a pas fait d'études, on peut postuler. Donc, c'était vraiment ouvert à tous. Hein. Moi, je parle aujourd'hui de la banlieue, mais l'école est ouverte vraiment à tous. On a eu des candidats venus, mais des quatre coins de la France. On a eu des candidats qui venaient de Marseille, de Lyon. On a eu beaucoup de candidats qu'on peut postuler depuis l'Afrique. Donc, voilà, les gens venaient vraiment des quatre coins de la France et d'ailleurs. Et la prochaine étape, en tout cas, de cette école, parce qu'on veut pas s'en arrêter là, on veut essayer de le développer. Et là, on va lancer la première école de cinéma Courtrajmé en Afrique, sachant que le troisième fondateur de Courtrajmé, qui est Toumani Sangaré, qui est installé au Mali depuis plus de 10 ans et qui vient de finir son premier long métrage. Donc, on se dit qu'il y a un potentiel énorme aussi en Afrique. On a envie de développer cette école partout en Afrique.
Voilà, une excellente nouvelle, longue vie à votre école, l'Adjeli. Et j'imagine que c'est le genre d'école dans laquelle on a plus de chances de tomber à la machine à café sur Vincent Cassel que sur le prof de PS en Lycra, non ?
Ah, mais c'est sûr, parce qu'en plus, même pour cette école, on a prévu, il y a plein d'intervenants. Déjà, on fait intervenir tous les membres de Courtrajmé, que ce soit Romain Gavras, Kim Chapiron, il y a Vincent Cassel qui intervient, Mathieu Kassovitz. L'idée, c'est de faire partager en tout cas notre réseau et de les faire intervenir dans cette école pour faire partager leur expérience. Et je trouve que c'est important de le faire.
Mais est-ce qu'on peut croiser Vincent Cassel en Lycra à la machine à café ou pas ? Est-ce que le combo marche
pas.
Aussi ?
Ça, je ferais pas.
Qu'est-ce que c'est que cette référence ? Il y a vraiment un film avec un prof de PS.
Rapprochez-vous du micro.
Pardon. Oui. Oui. Non, c'est il existe un film avec un prof de PS en Lycra ?
Non, c'est un projet justement. On pensait vous proposer le rôle.
Très bien. Merci.
Non, mais vous êtes attendu, mon cher Gringe, à cette école pour aller parler de votre expérience au cinéma.
Ça, ouais. Hein?
Bien sûr, avec vous l'accueillerez avec plaisir.
Antoine aussi, on vous attend. Si vous voulez Allez. Venir intervenir et faire partager votre expérience, vous êtes la bienvenue.
Ça fait longtemps que j'ai pas tourné, moi. Mais je me souviens. Bon, et écoutez, Ledgely, Gringe, il est l'heure pour moi de descendre à la cave chercher l'ultime morceau de cette émission et j'y vais de ce pas.
Isaïe. Un petit peu d'aide là. Super. Je vous emboîte le pas, Antoine.
Oui, attention,
pas trop vite quand même, il fait noir.
Mais qu'est-ce qui se passe là ?
C'est très très sombre. Mais... Ces choses auxquelles nous apportons notre soutien
c'est qui, lui
n'ont rien à voir avec nous.
Oh, merde.
Nous n'en occuperons par ennui.
Antoine, j'ai peur. Mais non, c'est le Gringe de lundi. Enfin, le Gringe de l'émission qu'on a enregistré lundi. Vous me suivez, Gringe ?
Je m'entends parler quand même, Antoine. J'ai
6 minutes,
je suis rassuré. Que nous ne le supportons
pas. Antoine, vous êtes là ? Oui, je suis toujours là, mais enfin, c'est très troublant parce que je vous entends parler de lundi et vous êtes quand même à côté de moi.
Antoine, qu'est-ce qui se passe ? On est en trop espace-temps.
Oh là là, c'est une faille spatio-temporelle, ça s'appelle. Alors, attendez, Gringe, il faut pas entrer en contact avec lui parce que ça pourrait bouleverser le cours de l'histoire. Mais non, mais c'est vrai, je rigole pas. Non, mais ne riez pas.
C'est pas moi, c'est lui qui rigole.
D'autres aussi, si jamais il se rend compte que vous existez, tout peut s'annuler. Vous comprenez ça ou pas ?
Qu'est-ce que je dois faire, Antoine ?
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de pas faire de bruit pour prendre un vinyle. Je veux surtout pas être à la base de cette réécriture de l'histoire, moi. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer Marty ? Pardon, Gringe. Regardez, là, j'ai tous ces disques sous les yeux. Ah, ben voilà, je sais. Dactylo Rock. Les chaussettes noires, ça vous va, ça ?
Pourquoi pas ?
Chut, allez, roulez, vous voyez.
On y va pour Dactylo Rock ?
Ouais !
Alors attention, les gars ! 1, 2, 3, 4, monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le plus vénard. Vous avez les tigri-tigri-di-dactylo-rap, tigri-tigri-di. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant ta petite tête noire. Bipapalula,
bipapalula.
Elles travaillent le jour et la nuit, et même parfois tous les samedis. Les dactylo-rap,
tigri-tigri-di.
Dactylo-rap, tigri-tigri-di. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant ta petite tête noire. Bipapalula,
bipapalula.
Dans tous les bureaux de bras en haut, les dactylos tapent go go et leurs patrons leur disent go go. Yeah, elles sont douces et très jolies. Ce sont les plus belles filles de Paris. Les dactylos,
digri digri digri,
dactylos,
digri digri digri.
Faire leur bouquette, les directeurs passent la tête. Elle va le bien ça,
elle va le bien ça.
Dans tous les bureaux de bras, on chantera très bientôt le rock des dactylos. Go! Yeah! Que le directeur sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes la plus belle à vous. Vous avez les
digri digri di
dactylos au rap.
Les chaussettes noires dans Pop 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 sur France Inter avec le morceau Dactylo Rock, c'était en 61. Très bien, merci Gringe. Enfant Lune, c'est votre premier album solo. Il est disponible et plus que recommandé par Pop Pop Pop. Je signale que vous serez en concert à la Cigale le 18 mars et puis en tournée à travers la France, juste dans la foulée. Merci Ledgely, merci d'être venu nous parler de votre donner envie de retourner à l'école, j'ai envie de dire. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Juste parler de peut-être mon film, le long métrage que je prépare, Les Misérables.
Ouais.
Donc là, on a fini le tournage cet été, on est en montage, il devrait sortir l'année prochaine. chaîne et je monte un projet avec Mouloud Achour, Younes Bourimèche et Jean Humbert, le chef. On monte un restaurant gastronomique dans le 9-3 à Noisy-le-Sec. Et le concept, c'est un restaurant gastronomique, un espace coworking à l'étage et un centre de formation dédié au codage informatique pour les femmes de plus de 30 ans.
Très bien, nous en reparlerons
le
dans
conservatoire.
Cette émission, le conservatoire. Bien, merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Clément Nouguier à la réalisation, à la technique Grégory Wallon, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Hugo Combe et Simon Arestat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Colin Cruel, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, le groupe Limoncello. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur France Inter. Et si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yves à la pointe, suivez-nous, plutôt comme dit B2.0 à la fin de ses tutos cupcake sur YouTube.
Abonnez-vous à notre podcast.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials. 3615 Pop 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 sur Instagram et Twitter.